Aujourd'hui, on va commencer l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates. Donc, si vous avez une Bible comme la mienne, c'est à la page 1168. Donc, j'ai donné le message. Le titre aujourd'hui, c'est les influences sectaires. Les influences sectaires. Donc, c'est suite à Tite. À la fin de Tite, on a parlé de ceux qui voulaient diviser les frères, etc. Donc, aujourd'hui, c'est les influences sectaires, mais en focalisant dans Galates. Donc, ce que je vais faire à travers les prochaines quelques semaines, on va faire des études en Galates, mais on ne va pas en faire verset par verset, mais ce sera plutôt paragraphe par thème lié à travers le livre. Donc, aujourd'hui, on fait un peu dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, je pense chapitre 5, peut-être pas, et chapitre 6. Vous voyez, on retire des textes qui touchent le même sujet. Par la suite, on va aborder les thèmes suivants. Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Donc, un peu l'histoire de Paul et les choses qu'il va nous dire, surtout dans cet épître, à propos de lui-même, et comment son message vient de Dieu. On va avoir un message sur l'Évangile et la foi. Un autre sur le Saint-Esprit et son fruit. Un autre sur la vie nouvelle. C'est pas la nouvelle naissance, mais c'est la vie qui suit la nouvelle naissance. On est venu à Jésus pour être pardonné. Il a lavé tous nos péchés. Il a mis son Saint-Esprit à nous. Et maintenant, il y a une vie par la suite. Et ça, c'est la vie chrétienne. OK, on va parler de ça. On va avoir un message sur la grâce et la loi. En parenthèse, la foi et les œuvres. Okay? Un autre message sur les œuvres charnelles, ou, si vous voulez, la vie naturelle. Ce qui est absolument typique ou naturel, inné à l'être humain. Et peut-être d'autres thèmes vont sortir avec le temps, on va voir. Mais c'est déjà ça. Donc, on est dans Galates, chapitre 1. Et par introduction, on va lire versets 1 à 5. Paul, Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, donc moi étant Paul, aux églises de la Galatie. Galatie, c'était une région au Mi-Orient, là, et Paul a fait deux voyages, donc un voyage missionnaire au sud et un autre au nord. Donc, on ne sait pas s'il s'adresse au sud ou au nord ou à tous, mais c'est dans cette région-là, les églises qui sont dans cette région. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Donc, ce n'était pas forcé, ce n'était pas quelqu'un qui l'a obligé. Ce n'était pas que les criminels l'ont pris et mis sur la croix sans sa propre volonté. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'est-à-dire, quand on croit en Jésus, eh ben, on ne fait plus partie de ce siècle, de cette ère, de cette époque actuelle, mais on entre dans le royaume de Dieu, on entre dans une vie chrétienne qui plaît à Dieu, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons à l'évangile de Jésus-Christ. Dieu sauve les pécheurs que nous sommes par sa grâce sur la base de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est ça qu'on vient de lire en Galates. Et dans la condition, donc le fait, c'est que l'Évangile est disponible à tous, mais il faut que chacun prenne position. Donc, dans la condition que chaque personne ait foi, et la foi en Christ, sachant sans mérite ni œuvre, est condamné. Se sachant condamné, n'est-ce pas? Eh bien, quand le pécheur vient demander pardon à Dieu, sur la base de l'Évangile, eh bien Dieu, il pardonne. Et quand on lit dans l'Épître aux Galates, on voit que malgré la beauté de l'Évangile, eh bien, il y a plusieurs qui se sont détournés de lui. Ils avaient déjà cru à l'Évangile, ils étaient sauvés. Et puis des gens sont venus avec un message semblable mais détourné. Et il y a plein de chrétiens qui ont adopté cette nouvelle doctrine. Et pourquoi donc Paul a écrit cette lettre? Donc maintenant on va lire à partir de verset 6, Galates chapitre 1, verset 6. Et j'appelle cette petite paragraphe le détournement des fidèles. Parce qu'il s'adresse aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Il faut le comprendre. Il s'adresse aux chrétiens qui se sont détournés. Je m'étonne que vous vous détourniez. Donc, les sectaires ne les ont pas obligés de se détourner. C'est eux qui eux-mêmes se sont détournés sur la base de ce que les autres ont dit. Donc, ils sont responsables de leur choix. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, Paul s'adresse ici aux chrétiens qui, influencés par les fausses idées néfastes, eh bien, ils se sont détournés de l'évangile qui était appris, qu'ils ont appris de l'apôtre Paul. C'est le même, on va voir plus tard dans le livre, le même évangile que tous les apôtres prêchent. Paul n'a pas un évangile différent. Paul a le même évangile que tous les apôtres. Et ils ont abandonné ça pour croire qu'ils perdront leur salut s'ils ne remplissaient pas certaines conditions. C'est ça le message de ces gens qui sont venus dans la région. Ils ont dit, « Ah oui, c'est bien de croire en Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez juifs. » Cette idée, la perte du salut, est une fausse doctrine, une manipulation motivée ou qui fonctionne sur la crainte, les gens qui craignent. Eh bien, il y a de nombreux chrétiens qui croient au père de salut. J'espère pas que ce soit vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui, avec le temps, commencent à douter et dire que peut-être Dieu ne va pas me garder jusqu'au bout. Eh bien, c'est une erreur. Et ça vous détourne de la vérité. Attention, même une personne qui a une fausse idée, quand il a cru en Jésus, Dieu lui a fait plein de choses, on va voir tout à l'heure. Donc, ils ne perdent pas leur salut à cause de leur fausse compréhension, à cause de cette erreur. Mais, s'ils croient faussement qu'ils peuvent perdre leur salut par un péché ou par un manque d'œuvre, c'est faux. Ils ne peuvent pas. Si vous n'avez pas les bonnes œuvres, ça n'enlève pas le fait que Dieu vous a pardonné. C'est une question de fidélité de la part de Dieu. Mais les sectaires, donc les personnes qui enseignent cette fausse doctrine ou d'autres fausses doctrines, mais en particulier, donc on parle de cette fausse doctrine, ils vont manipuler à leur propre profit, ils vont manipuler les chrétiens qui ont ce manque de confiance quant à l'assurance du salut. Alors pour Paul, ces idées sont tellement illogique, qu'il veut que les chrétiens de la Galatie revoient l'évangile. Mais c'est quoi que vous avez cru donc? Si vous pensez que ça ne suffit pas, qu'est-ce que c'est l'évangile? Donc il fait réfléchir. Alors, cet esprit de confusion dans ces églises, donc cette idée d'un côté la perte du salut, mais quand on lit l'Épître, il combat aussi l'idée que nous allons nous sanctifier par nos activités humaines. Hein, il va dire beaucoup sur ce thème-là. Non, vous ne pouvez pas devenir un saint par vos activités humaines. C'est en collaboration avec l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, que Dieu nous sanctifie. Mais ce n'est pas par nos œuvres humaines. Donc, cette confusion est une fausse doctrine qui revient malheureusement dans toutes les générations. C'est pour ça que Dieu aborde ça dans la parole. Cette fausse doctrine a été introduite ici en Galatie par certains juifs qui avaient suivi les traces de Paul en essayant d'amener des chrétiens au judaïsme. Paul va dire aux chrétiens que lui, il est né juif. Il a pratiqué le judaïsme, mais cela ne lui a apporté que la condamnation. C'est insensé, Paul dit, de rejeter l'Évangile pour devenir juif. Il était juif. Il a rejeté le judaïsme en croyant en Jésus-Christ. Pourquoi rejeter un salut gratuit pour, à la place, embrasser un message qui condamne? La grâce et la paix, ça veut dire le salut, viennent de Dieu par Jésus-Christ, comme un don, et ne s'obtiennent nullement par les œuvres humaines. Alors les faux enseignants disent, non, il ne suffit pas d'être sauvé par la grâce sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité. Non, il faut d'autres choses en plus que la foi. Alors le plus, c'est le mensonge. Le plus rend nul l'espoir de grâce en Christ. Notons dans le verset 6 que Paul insiste que nous avons été appelés au salut par la grâce. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui, donc Dieu, qui vous a appelé par la grâce de Christ. Le salut est par la grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Dieu n'a pas regardé en bas et dit, « Ah ben, il y a un groupe de bonhommes, des gens mieux que les autres. Cela, je vais sauver. » Non, il nous a dit, il nous a vu tous pareils, tous pécheurs, salis et irrécupérables. Condamnés. Mais dans sa bonté et son amour pour sa création, eh bien, il a fait tout le nécessaire pour nous sauver. Ça, c'est la grâce. Donc, il y a deux, trois mots à voir là. Donc, dans le verset 7, il y a un mot qui vous trouble. Donc, c'est l'idée d'agiter, remuer, comme quand on a fait le baptême, il y a la vase au fond de la rivière, et on marche un peu, ça fait... Ça devient trouble. OK? C'est ça. Il y a des gens qui viennent qui troublent. Le mot renversé dans le verset 7, c'est l'idée de altérer, donc transformer, transmuter. Enfin, c'est pas le même message. Une fausse bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et une fausse bonne nouvelle, ce n'est pas l'Évangile. Okay? Le mot anathème veut dire maudire ou condamner. Qu'il soit voué à l'enfer. On va sauter au chapitre 3. Chapitre 3, versets 1 à 5, et j'appelle cette paragraphe la fascination. La fascination. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, donc le Saint-Esprit, ou par la prédication de la foi? Donc, on y dit reçu l'Esprit, il veut dire sauvé. On va parler encore de ça tout à l'heure. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, donc cru en Jésus-Christ, par toute l'œuvre de Dieu, eh bien, vous allez maintenant finir par la chair. Vous allez accomplir votre christianisme en étant des gens mécaniques qui suivent plein de règles. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? C'est-à-dire s'ils n'ont pas vraiment cru en Jésus, oui, ils ont souffert en vain. Mais s'ils ont cru en Jésus, non, ils n'ont pas souffert en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, dans ce paragraphe, Paul dit, le salut est gratuit. Jésus a tout payé. Pourquoi voulez-vous payer? Pourquoi les Galatiens voulaient payer le salut? Si vous arrivez au parking et le panneau dit « parking gratuit », est-ce que vous allez revenir toute la journée par manque de confiance et essayer de payer votre parking? Bien sûr que non. Mais c'est ça que faisaient les gens de la Galatie. Ils voulaient revenir payer le parking gratuit. Donc, il y a des phrases, on va voir, dépourvues de sens, veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ils sont, il dit, on peut le traduire, sans intelligence, dans le sens sans intelligence spirituelle. Et donc, ils sont insensés. Le mot fasciné, c'est aussi le mot envoûté. Et donc, l'idée, c'est d'être fasciné par une fausse représentation. C'est-à-dire, on a pris l'Évangile et on l'a maligné. C'est l'idée de causer les autres de voir quelque chose d'un mauvais œil. Et donc, de calomnier. Hein, ces Juifs qui sont venus en Galatie ont calomnié l'Évangile. Et les Galatiens ont adopté, accepté ces fausses idées. Donc, j'ai déjà mentionné, reçu l'Esprit, c'est-à-dire être sauvé. Donc, dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, nous lisons que par la conversion, donc je commence la citation, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est le Saint-Esprit qui applique le salut à chacun qui croit. Car la promesse, le Saint-Esprit, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, donc ça veut dire nous aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dans ce petit paragraphe, Paul invoque le Saint-Esprit trois fois. Il dit « reçu le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, accorde le Saint-Esprit, l'Esprit ». Alors les secteurs vont nier les véritables évidences de la présence du Saint-Esprit dans les croyants. Or, quand une personne croit en Jésus-Christ, tous ses péchés sont effacés et Dieu lui accorde son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance dans la personne et il prend résidence permanente dans cette personne. Il immerge et en même temps, il immerge la personne dans le corps céleste, le corps de Christ dans les lieux célestes. Alors, tous ces actes, et je n'ai pas tout dit, hein, il y a d'autres choses que Dieu dit au moment que vous êtes sauvés, mais toutes ces choses-là constituent le salut. Vous êtes sauvés. Si vous n'êtes pas attaché à Dieu au ciel, c'est que vous n'appartenez pas à Dieu, vous n'êtes pas sauvés. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous n'êtes pas sauvés. Si Dieu n'a pas lavé vos péchés, c'est que vous n'êtes pas sauvé, etc. Toutes ces choses, c'est l'acte de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sauf croire. Vous l'acceptez comme une vérité que Dieu a dit, je vais faire ça à vous. OK? Et c'est ça, ça veut dire que vous êtes sauvé. Par la suite du salut, le Saint-Esprit qui demeure éternellement en vous, eh bien, il commence à transformer la vie. Il commence à vous changer. Il commence à produire en vous et à travers vous, des fruits. Et on va voir ça plus tard, pas aujourd'hui, mais dans le chapitre 5. Alors, ces transformations, ces fruits de l'Esprit, sont les évidences ou les indicateurs que l'Esprit de Dieu demeure dans le croyant. C'est évident. Quand Dieu est là, on agit autrement. Le croyant et les personnes, les autres croyants, et les personnes autour de lui vont dire, « Ah, mais que vous êtes changé depuis que vous êtes devenu chrétien. » Ça, c'est Dieu qui agit dans le nouveau converti, à travers toute sa vie, n'est-ce pas? Il y a cette petite phrase aussi, la prédication de la foi. Ça, c'est un peu plus bizarre, la traduction, parce que ce mot, prédication, en fait, signifie l'écoute, l'entendement. Okay? Donc, on prêche et on entend. Donc, c'est difficile à traduire l'idée si on peut dire la prédication de la foi. Mais c'est vraiment, c'est l'écoute de la prédication de la foi. C'est quand on écoute et on comprend le message de l'Évangile, par la foi, eh bien, on est sauvé. C'est ça que ça veut dire. Okay? Ici, les deux fois, c'est la même phrase, la prédication de la foi. Donc, les gens ont commencé la vie chrétienne en croyant en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi ils vont vouloir se faire circoncire, pratiquer la loi et peut-être faire d'autres choses afin de plaire à Dieu, de acheter leur salut? Ça ne marche pas. OK? Il dit, vous avez commencé par la foi, pourquoi voulez-vous finir ou terminer par la chair? Donc, la sainteté dans le sens de la sanctification, hein, ce qui est à travers notre vie. Et ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas parce qu'on met de l'argent dans la boîte là que Dieu dit, ah, il y a un peu plus de sainteté. Ça ne marche pas comme ça. C'est spirituel. C'est toujours spirituel. Nous, on est contraints dans le matériel, on a nos corps, etc., nos pensées. Mais ce que Dieu fait, il fait dans l'esprit. Alors, on va sauter au chapitre 4, verset 17, que je vais appeler cette phrase, ce verset, les voleurs de bétail. Les voleurs de bétail. Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous, donc c'est ils, c'est les sectaires, c'est les gens qui sont venus enseigner cette fausse doctrine. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc, il dit que le zèle n'est pas pur, c'est-à-dire le zèle est impur. Ces sectaires n'aiment pas la simplicité de l'Évangile. Donc, ce qu'il veut dire, c'est de détacher les croyants des apôtres. Okay? Donc, ce sont, le mot c'est voleurs de bétail, donc ce sont des voleurs de bétail, comme dans les westerns, n'est-ce pas? L'idée c'est que, pas comme les westerns, mais l'idée c'est que on va couper des brebis du troupeau afin de faire un autre troupeau qui est au sectaire. Ils veulent rassembler des partisans. C'est ça leur objectif. Et comme nous allons voir plus tard dans chapitre 5, ces pratiques sectaires sont absolument et profondément humaines. Ça ne vient pas de Dieu. On va sauter au chapitre 5 maintenant. Chapitre 5, versets 7 à 12. Et j'appelle cette paragraphe les influences. Les influences. Verset 7. Vous courez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. C'est-à-dire, ils ne vont pas continuer à penser ces mauvaises choses, mais ils vont revenir à la vérité. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu, c'est-à-dire s'il ne prêche plus la croix, il n'y a plus de scandale de la croix. Okay? Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Donc, bien que les Galates se soient laissés détourner de la vérité, pour la confiance que suite à cette lettre qui les a adressées, eh bien, ils vont abandonner les fausses idées et s'attacher à la vérité. Et puis, vous l'avez bien entendu, ils condamnent les sectaires. Donc, il y a quelques mots à avoir. Le mot arrêter, c'est un peu détenir ou même détraquer, un peu comme un athlète qui doit courir d'ici là, et puis, à un certain moment, quelque chose fait penser autrement, et hop, il a arrêté la course pour faire autre chose. Empêcher d'obéir, c'est en fait désobéir, ne plus se confier à la vérité. C'est ça le mot. Ne plus se confier à la vérité, donc désobéir à la vérité. Et le mot influence est très intéressant. Ce mot signifie persuasion, conviction, crédulité, mauvaise influence. Donc, il dit cette influence n'est pas bon. OK? Qui veut dire que quand on a des convictions, et j'espère que vous avez des convictions, mais quand on a des convictions qui ne sont pas bibliques, eh bien, ces convictions peuvent être néfastes. Ces choses qu'ils ont apprises, ils ont pris des convictions qu'il faut se faire juif pour être sauvé, pour accomplir le salut. Et cette conviction qu'ils avaient adoptée, eh bien, c'était faux, c'était néfaste, et ça les détournait entièrement de la vérité. Donc, il est bien d'avoir des convictions, mais que nos convictions, soient basées sur la parole de Dieu, et non pas simplement sur notre culture, nos idées personnelles, etc. Et le mot retranché, ça veut dire émasculer, se castrer, se mutiler. Et je pense le point ici, c'est parce que eux, ils font des adeptes. Et Paul veut qu'ils soient, en fait, arrêtés de se reproduire dans leur fausse doctrine. Je pense que ça veut dire ça. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui pense ça. Alors, on va chercher Galates chapitre 6 et versets 12 et 13. Galates 6, versets 12 et 13. Et j'appelle cette paragraphe les motivations. Chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Donc, dans le texte, c'est assez net, mais en règle générale, il y a beaucoup de raisons que des gens deviennent sectaires. Et ici, Paul focalise sur le désir d'être accepté ou bien vu par les autres. Et il dit, afin d'éviter la persécution. Si on est chrétien, donc à l'époque, tous les premiers chrétiens étaient juifs. Donc si on se convertit et on agit comme des juifs, eh bien les juifs ne vont pas nous persécuter. Donc on va se faire juif pour être accepté par les gens autour. C'est ça l'idée. Leur motivation est égoïste. Ce n'est pas centré sur Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Non, c'est comment je fais pour ne pas être persécuté. C'est comme de nombreux chrétiens de nos jours qui abandonnent la croyance dans la création selon la Genèse pour croire à l'évolution ou une forme d'évolution afin d'être bien vu par les non-croyants. Ça ne va pas. Il y avait le mot se rendre agréable. Donc ça veut dire se faire bien voir par les autres. Donc il veut recevoir l'honneur des hommes au lieu de l'honneur de Dieu. Okay? Craigne, c'est obliger ou inviter avec insistance. Inviter avec insistance. Et puis pour se glorifier, c'est pour se valoriser. C'est pour leur propre compte et non pas pour le bien de l'autre. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour eux. Il, entre guillemets, évangélise avec le faux évangile. Il évangélise les chrétiens avec le faux évangile pour avoir à eux des partisans. Mais ce n'est pas pour le bien de ceux qu'il attire. Donc, tout ce que j'ai dit là à propos de ces fausses doctrines et ces fausses pratiques, donc je l'ai dit parce que bon, déjà en Tite, on a abordé le thème. En Galatie, ils avaient des grands problèmes. Donc, le point au fond, c'est que quoi que soit l'objectif, les sectaires, ou le thème, le sujet sur lequel focalisent les sectaires, eh bien, ils veulent détourner les autres, les chrétiens, ils veulent les détourner de la foi qui est pure et simple. C'est ça l'idée, ok? Donc, vous savez bien, pour fendre une bûche de bois, il suffit de mettre un coin, et puis, dans ce petit faille-là, et puis, pouf, l'enfoncer avec une masse. Avec relativement peu d'effort, eh bien, vous allez diviser la bûche en deux. Et c'est ça, les sectaires, ils causent ou ils provoquent des divisions dans l'objectif de rassembler des partisans. Ce n'est pas pour le bien des partisans, c'est pour le propre intérêt au secteur. Ils utilisent diverses méthodes pour fendre l'assemblée. Pour dire qu'ils détachent les chrétiens des bonnes églises, afin que leurs victimes soient attachées et surzélées pour la secte ou pour le mouvement sectaire, et encore ceci au profit des sectaires. Aux yeux des fidèles, ils doivent diminuer ou détruire la confiance que les membres de l'Église ont dans leur pasteur afin de les ramener à leur suite. Ils vont discréditer, ridiculiser, maudire, se moquer, railler. Alors on a dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. Les sectaires, ce sont en fait, ces sectaires-là sont des apostats. Ils utilisent la tromperie pour se créer des partisans. Eh bien, c'est ça que le diable a utilisé avec Ève. Il a mis en doute la bonté de Dieu et la vérité de sa parole. Donc, ils vont falsifier l'enseignement biblique. Donc, je vais vous lire 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, qu'en font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Une des habitudes des sectes et des sectaires est de sortir les versets de leur contexte. Ils vont nier l'interprétation littérale et réinterpréter la parole selon leur guise. Ils dénaturent les Écritures en utilisant souvent l'allégorisation. Et là, c'était démarré dans le christianisme, à côté du christianisme, par Philo. C'était appliqué par Clément d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, et Augustin de Hippone. Comme on a vu autrefois dans Tite chapitre 3, verset 10 et 11, Paul dit que les sectaires se condamnent eux-mêmes. Le sectaire, il a un problème spirituel. Il n'est même peut-être pas sauvé. Il va se vanter par manque d'humilité, donc évidemment par orgueil, même si cela est caché sous le béni d'une fausse humilité. Ceci nous rappelle le diable et l'antichrist. Les secteurs montent leurs arguments sur les demi-vérités, des mensonges, des propos impossibles à vérifier ou à prouver, et vont manipuler les faits afin de persuader les gens. À la fin, le message n'est pas la vérité. Et donc, le message est un mensonge. Alors, attention à nous, notre nature humaine, dans sa perversité, aime les intrigues et les théories pleines de conspiration. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants selon leurs propres désirs. » Ce sont la thème ou les thèmes que l'on retrouve dans beaucoup de films et de romans pour la distraction et l'amusement, hein, toutes ces trucs de conspiration. Mais pour les choses sérieuses de l'esprit, il nous faut la parole de Dieu. À un certain moment, nous pensions avoir trouvé des collègues avec qui travailler. Mais après vraiment une première entrevue, il était évident que ces gens s'égaraient dans une multitude de théories de conspiration pour lesquelles ils étaient extrêmement zélés. Mais ils n'étaient pas zélés pour la parole. Et donc ça nous a attristés, mais on ne pouvait pas continuer notre collaboration avec ces gens-là. C'était dommage. Bien que religieux, même si la personne est éloquente ou un chef religieux, s'il n'a pas l'esprit, c'est qu'il n'est pas sauvé. Nous lisons dans la seconde moitié de Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans Jude, verset 19, nous avons la phrase concernant les sectaires, sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, donc vivant dans leur humanité, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc si la personne n'a pas l'esprit, c'est qu'il est encore perdu. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus a rencontré de nombreuses personnes religieuses, mais perdues. Paul a dû faire face à plusieurs de ces personnes et il nous a averti qu'après son départ, de nombreux loups allaient arriver. Les motifs sont impurs. Les enseignants sectaires fonctionnent au niveau de la chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Le message à la fin est l'incrédulité, caché bien sûr sous un vocabulaire trompeur. Tôt ou tard, le mauvais fruit se voit. L'avarice, la recherche du pouvoir, les impuretés sexuelles, etc. Ça revient. Le point dans ces observations, c'est que il faut prendre position contre les sectaires. Quand vous savez, confronté à un mouvement ou personne sectaire, il faut prendre position. Il faut s'accrocher à la vérité pure et simple. Dieu n'a pas de vérité. C'est la base de toute interprétation biblique. Dieu ne dit pas oui et non sur le même sujet. Il ne change jamais. Il a toujours une optique. Il n'y a pas un évangile de grâce et un autre évangile des œuvres. Il y a seulement l'évangile de grâce et la condamnation qui vient avec les œuvres. Donc, en conclusion, hein, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes fidèle. Hein, la parole dit, même si vous êtes infidèle, Dieu reste fidèle, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous assurer de votre salut par vos œuvres. C'est Dieu qui assure votre salut, car Jésus a déjà tout fait quand il était sur la croix. Donc, vouloir vous assurer de votre salut revient à dire que vous n'avez pas confiance en la capacité de Dieu de vous sauver par l'Évangile. C'est ça l'argument de Paul à travers ces choses. Aussi, vous pouvez et même vous devez collaborer avec le Saint-Esprit pour produire des fruits en vous et à travers vous, qui sont en effet les signes ou les manifestations du Saint-Esprit qui demeurent en vous. Et puis, dernière pensée, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est là la volonté de Dieu.